Le Noël
des 50 ans Carrefour.
Avec la garantie prix le plus bas sur 200 jouets et jeux vidéo de grandes marques. Comme le jeu Nintendo 3DS Luigi's Mansion 2 à 34,90€ chez Carrefour alors qu'il est à 43,64€ chez Auchan. C'est le
Noël le plus merveilleux.
Carrefour, 50 ans de prix. Bah.
Prix en vigueur dans les magasins Carrefour depuis le 19 octobre. Prix moyen constaté du 18 au 22 octobre dans 68 magasins Auchan. Détails et modalités de la garantie prix le plus bas sur carrefour.fr.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand nous avait promis une petite série d'émissions consacrée au génie de la science. Il tient parole aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. La semaine dernière, Alain Siroux nous a fait vibrer avec la révolution copernicienne. Eh bien aujourd'hui, c'est un peu la suite qu'il est venu nous raconter, puisque nous allons parler de Galilée et naturellement du célèbre procès dont Galilée a été l'objet.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez aux questions de Paul et Nicole.
Oui, sur la pendaison de crémaillère et sur la cuillère à peau. Pas sûr qu'il y ait d'ailleurs un rapport tout à fait immédiat. Pour le moment, nous prenons la route de Rome.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
La semaine dernière, nous parlions de la théorie copernicienne selon laquelle la Terre n'était pas le centre immobile de l'univers, mais au contraire un astre en rotation sur elle-même et autour du Soleil, rappelez-vous. Théorie que l'Église de l'époque n'était pas prête à laisser propager. D'où les déboires, on va dire, du célèbre Galilée devant le tribunal du Saint-Office à Rome au premier tiers du XVIIe siècle. Tout le monde a entendu parler plus ou moins de ce procès intenté aux savants parce qu'il venait de soutenir par écrit la théorie copernicienne. Le procès s'est ouvert le 12 avril 1633 sous la présidence du père Maculano di Firenzuola, qui était le commissaire général du Saint-Office. On ne plaisantait pas là. Disons clairement, on est devant l'Inquisition. En prononçant un arrêt, une sentence dure contre Galilée, on peut dire qu'à l'époque, le Saint-Office a rendu un mauvais service au catholicisme. En effet, la condamnation de Galilée va devenir, pour tous les siècles suivants, une véritable casserole que l'Église va traîner derrière elle. Je pense à Voltaire, évidemment, qui en a fait des tonnes, mais enfin, Voltaire faisait toujours des tonnes de tout. Je pense à Bertolt Brecht, avec sa vie de Galilée, au petit père Combes, aux anticoléricaux les plus contemporains. On peut dire d'une façon générale que ce jugement demeure un grand exemple de ce que l'obscurantisme religieux pouvait avoir de plus terrible. Plus généralement, l'opinion commune a encore simplifié les choses. Il n'est pas rare de voir Galilée considéré dans certains articles ou à l'occasion d'un débat comme un grand astronome, un haut philanthrope, un sage suprême, et ses juges alors comme des espèces d'ignorants, des irresponsables, des hommes du Moyen-Âge. Alors, entendons-nous bien. Et quand je dis entendons-nous bien, j'aimerais que tout le monde m'entende, parce que j'ai pas envie d'avoir 150 messages au standard. Je ne vais sûrement pas cet après-midi me mettre à défendre le point de vue d'un tribunal qui, à l'évidence, a rendu un arrêt injuste, brutal et même totalement maladroit. Mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que, et au risque d'en choquer quelques-uns, c'est que Galilée d'abord n'était pas un astronome, ça va être assez vite démontré, c'était un physicien, qu'il était moins philanthrope en vérité qu'éminemment carriériste. J'espère qu'Alain Siroux aura quelques exemples à nous donner pour me soutenir dans cette affaire. Et puis qu'au lieu d'être un sage, c'était au contraire un polémiste redoutable, acharné. Quant à ceux qui l'ont condamné, ils n'étaient peut-être pas si ignorants que ça, ils étaient même sans doute un peu trop savants en l'occurrence. Ils n'étaient pas irresponsables, mais au contraire beaucoup trop crispés sur leur prétendue responsabilité, et ils n'étaient pas moyenâgeux du tout. C'était bel et bien des hommes de leur temps, ils étaient profondément imprégnés de ce qu'on appellera la contre-réforme ou la réforme catholique, j'y viendrai tout à l'heure. Alors, vous avouerez quand même que tout ça fait un certain nombre d'idées fausses à redresser. Nous avons une heure pour le faire, on va s'y employer, bien entendu. Voici ce qu'écrivait Galilée dans son célèbre ouvrage « L'essayeur ». Il écrivait « La philosophie est écrite dans ce livre immense, perpétuellement ouvert devant nos yeux, autant dire l'univers. Mais on ne peut le comprendre si l'on n'apprend pas d'abord à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit, il, donc l'univers. Il est écrit, et disait Galilée, en langue mathématique. Et ces caractères sont des triangles, des cercles et d'autres figures géométriques sans l'intermédiaire desquelles il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot. C'est tout de même assez fort, ça, comme constat au début du XVIIe siècle. Alors, là, peut-être faut-il que je vous dise un petit peu d'où il vient, ce Galilée, même si nous aurons l'occasion tout à l'heure avec Alain de revenir dans le détail sur sa vie. Moi, je vais aller à grands traits. Bon, il est né en 1564. C'est important, de voir, il naît dans ce troisième tiers du XVIe siècle, c'est-à-dire à un moment où ont déjà eu lieu les grandes révolutions, justement. Il naît à Pise, mais ce qui est important, c'est que c'est dans une famille florentine. À Florence, on vénère Platon, l'idéalisme. C'est une ville d'intello, si je puis dire. Ça n'a pas changé, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il va rentrer à Florence avec ses parents alors qu'il a 10 ans. Son père, Figenzo, est officiellement joueur de lutte, mais enfin, il faut dire la vérité, en pratique, il s'adonne surtout au négoce, parce qu'il faut bien vivre, il faut bien nourrir sa famille. Alors, le petit Galileo va retourner à Pise pour étudier toutes sortes de choses, à commencer par la médecine. C'est pas vraiment une discipline qui lui plaît, ou plus exactement, ça ne correspond pas à sa vocation. Car le jeune Galilée nourrit plutôt une grande passion pour l'univers physique. Il fait partie de ces gens, vous savez, quand il voit ce qui l'entoure, ce qui les entoure, et notamment quand il voit le monde en mouvement, ça les fascine. C'est dans la cathédrale de Pise qu'il a eu sa première grande intuition scientifique en observant des lampes en suspension, vous savez, qui se balancent entre les piliers. Et là, ça c'est une belle constatation, Galilée s'est rendu compte que quelle que soit l'amplitude du mouvement, alors à moins de prendre un mouvement totalement exorbitant, mais quelle que soit l'amplitude du mouvement et quelle que soit la masse du pendule, que vous ayez des lampes lourdes ou légères, qu'elles balancent beaucoup ou un petit peu, les périodes d'oscillation sont de même durée. Autant dire que Galilée, tout jeune, venait de constater le phénomène d'isochronisme des oscillations. Ça, c'est très important, évidemment. Et plus tard, il va se consacrer beaucoup à l'étude des mouvements des corps physiques dans le vide, sur des plans inclinés, etc. Il sera le premier à établir la loi de la chute des corps. On va y venir tout à l'heure. Alors, il est installé à Padoue à partir de 1592 et il va mettre au point toutes sortes d'instruments, des thermomètres, des compas de visée, etc. Des instruments qu'il commercialise et qui lui permettent d'ailleurs de s'enrichir, ce qui bien sûr va faire pas mal de jaloux. Vous savez, quand vous commencez à gagner de l'argent, vous avez vos confrères qui commencent à rechigner, notamment dans ce monde des sciences. On est, ne l'oublions pas, dans un XVIe siècle où toutes les disciplines sont un peu, comment dire, il y a de grandes porosités de l'une à l'autre. Il met aussi au point une lunette dont il n'est pas l'inventeur. C'est donc, disons-le, un homme déjà connu et reconnu quand, en 1610 donc, il commence, grâce à la fameuse lunette, ses observations sur le cosmos. Il en tire très vite un petit ouvrage, le Messager des étoiles, qu'il dédie au grand-duc de Toscane avec l'espoir de pouvoir rentrer à Florence au plus vite. Or, plus il observe le ciel et plus il se convainc de la véracité des théories de Copernic sur le mouvement des planètes.
On écoutait Gustav Holst sur Europe 1 avec Jupiter, un extrait de la Symphonie des planètes dirigée par Léonard Bernstein.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au procès de Galilée.
Alors au moment où il se tient ce procès de Galilée, en 1633, il faut bien avoir à l'esprit que les travaux de Galilée sont déjà vieux de plusieurs décennies et que tous les spécialistes, si j'ose cet anachronisme, les connaissent naturellement, les utilisent. Seulement, ils n'en font pas état publiquement afin de ne pas froisser l'Église. Rappelez-vous ce que nous racontait Alain Sirou la semaine dernière, Kepler qui vient de confirmer la justesse du système Copernicien. copernicien et de le raffiner en établissant la nature elliptique des révolutions planétaires, Kepler lui-même estime que ses recherches de pointe n'ont pas à être divulguées auprès d'un très large public. C'est sans doute replacé dans le contexte de l'époque, une attitude assez sage d'ailleurs, puisqu'elle n'entrave pas le progrès de la recherche, tout en préservant l'équilibre mental d'une société qui, à l'époque, est déjà déstabilisée par pas mal de remises en cause. Est-ce que j'ai besoin de revenir sur la réforme, bien entendu, sur les grandes découvertes, sur toutes sortes d'avancées de la connaissance? Galilée, lui, opte pour l'attitude opposée. Sans être donc astronome et tout en se trompant sur certaines réalités, mais ça on va y venir aussi tout à l'heure, Galilée va clamer haut et fort, et qui plus est dans des ouvrages en langue vulgaire, c'est-à-dire accessible à tous, il va proclamer la véracité des théories coperniciennes. Or, qu'on le veuille ou non, ces théories sont contraires à la lettre de l'Écriture sainte, et ça gêne évidemment un certain nombre d'ecclésiastiques. Pourtant, au départ, les relations de Galilée avec la hiérarchie catholique étaient tout à fait excellente. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, pour comprendre cette mauvaise passe dans laquelle Galilée est allé se mettre, il faut commencer par rappeler qu'il n'avait pas la formation d'un astronome. Il a 45 ans, cet homme-là, quand il commence à s'intéresser vraiment pour la première fois à ce qui se passe dans le ciel. Je vous ai dit qu'il avait jusqu'ici fabriqué toutes sortes de machines. Alors, on peut dire qu'il donne bien à certains jeunes gens de la noblesse des cours de physique appliqués aux techniques militaires, mais enfin, on ne peut pas dire que tout ça nourrisse tellement son homme. Il a besoin de gagner davantage, tout simplement. Alors, il cherche ce qu'il pourrait bien fabriquer et commercialiser en matière d'instruments de précision, puisque c'est son domaine. Au rez-de-chaussée de son logis, il a installé une sorte de boutique qui devait être passionnante. D'ailleurs, on rêve d'aller visiter l'échoppe de Galilée. Et dans cette boutique, il vendait toutes sortes d'instruments scientifiques. Alors, c'est moi qui appelle ça des instruments scientifiques. Évidemment, à l'époque, c'était pas tout à fait ça. Ils étaient fabriqués, ces instruments, par un artisan de grand talent qui s'appelait Mazzoleni et qui travaillait sur les plans et sur les dessins du maître, naturellement. Or, au début de l'été 1609, alors qu'il est allé se rafraîchir un peu à Venise, Galilée apprend qu'un artisan flamand vient de fabriquer un appareil optique, une lunette, qui permet de voir des objets éloignés comme s'ils étaient deux ou trois fois plus proches. Ça lui donne des idées. Il se met au travail, avec le concours toujours de Mazzoleni. Il met au point, en 1610, sa propre lunette grossissante. Sauf que la sienne ne grossit pas les objets trois fois, elle les grossit 35 fois, vous imaginez l'enthousiasme de tous les stratèges vénitiens, notamment, qui du coup vont doubler ses appointements. Ça commence à aller bien pour Galilée. Alors, en soi, ça c'est une réalisation fabuleuse. Mais ce qu'il y a de génial, c'est l'emploi que Galilée va très vite faire de sa lunette. Car dès 1610, le professeur tourne la lunette vers la voûte astrale et lui-même demeure sidéré, si j'ose dire, parce qu'il voit d'un seul coup tous ces corps célestes qui jusqu'ici avaient toujours paru un peu abstraits à tout le monde deviennent concrets, présents. Il voit les reliefs de la lune, il comprend la nature de la voie lactée, il découvre de nouvelles étoiles, il voit de nouvelles étoiles et les satellites de Jupiter, etc. Alain Sirou va nous raconter jusqu'où sont allées les découvertes propres de Galilée. Ça, c'est important. Il a une méthode, vous savez, très simple, très moderne. Lui, il observe, il en tire une hypothèse, et il met cette hypothèse à l'épreuve des faits, ensuite en fait des observations, et ensuite il tire les conclusions objectives, qui confirment ou qui infirment l'hypothèse. Alors, évidemment, nous qui baignons depuis maintenant des siècles dans un monde scientifique, on trouve ça presque banal. Mais à une époque où l'Écriture sainte est considérée comme la première source de vérité, et la vie des anciens comme la seconde source, en quelque sorte, je vous assure que cette observation libre, détachée de la nature, est proprement révolutionnaire. Le plus important, peut-être, pour ce qui concerne Galilée, c'est qu'il rompt purement et simplement avec l'approche littéraire des sciences. Il ne faut pas oublier que lui-même est un mathématicien. Rappelez-vous ce que je lisais tout à l'heure. C'est, selon lui, on peut comprendre l'univers en termes géométriques et l'on peut chiffrer la réalité. Ça aussi, c'est une idée complètement nouvelle pour l'époque. Alors, voilà comment et voilà sur quoi va prospérer la polémique qui mène au procès de Galilée. Il faut revenir à l'éternelle opposition, là, des élèves de Platon et de ceux d'Aristote, j'en disais un mot tout à l'heure. D'un côté, donc, l'idée, la théorie, mais aussi le besoin de vérité, d'explication globale, les platoniciens, dont saint Augustin sont les interprètes, l'interprète chrétien. Et puis, de l'autre côté, l'empirisme, la pratique, l'expérimentation avec un sens aigu de la nuance et de la dialectique, ça, ce sont les aristotéliciens, dont le nouveau maître est saint Thomas d'Aquin. Dans cette première moitié du XVIIe siècle, qui est archi-baroque, ce sont les aristotéliciens qui dominent, évidemment. En matière de cosmographie, la thèse admise, celle de l'Église, c'est celle directement héritée d'Aristote, de Ptolémée, on en parlait la semaine dernière, hein, cette idée d'une Terre toute seule, tout à fait immobile au milieu d'un univers, et puis tout le reste qui tourne autour d'elle. Galilée, lui, a connu l'influence des milieux platoniciens de Florence. Le système copernicien qu'il défend prétend tout expliquer à partir d'une idée fondamentale, révolutionnaire, c'est que c'est le soleil qui est au cœur et la Terre comme les autres planètes qui tournent autour. Alors, Galilée se croit fort, il a de très très hautes relations, il se croit fort socialement, il se croit fort intellectuellement, suffisamment fort pour se faire le porte-enseigne public de cette approche néo-platonicienne fondée sur des calculs théorique, il dispose à Florence de la protection des Médicis, il a de hautes relations, dans la hiérarchie catholique, et notamment, il est ami du cardinal Barberini de Florence, qui est décidément très très intéressé par ses observations.
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au procès du savant Galilée.
Alors oui, il faut vous dire que quand même, en 1615, le cardinal Bellarmine, qui préside le Saint-Office, donc l'inquisiteur si vous préférez, convoque Galilée à Rome. Pour l'instant, les échanges restent tout à fait polis, très comme il faut. Galilée est un monsieur important, encore une fois. Ses livres ne sont pas mis à l'index des livres interdits, c'est déjà ça. Mais en revanche, ceux de Copernic vont l'être. Et de plus, Galilée va devoir désormais s'abstenir de professer des opinions fallacieuses. C'est ainsi que le Saint-Office s'exprime. Alors, pourquoi une telle intolérance? Je ne vais pas entrer dans tout un débat théologique, mais il faut quand même que vous sachiez que la théorie copernicienne, donc, entre en contradiction avec certains passages des Écritures. Il y en a plein, hein. Par exemple, il est écrit à un moment que Josué arrête le soleil dans le milieu du ciel. Bon, ben ça, c'est quand même écrit dans la Bible. Et ça, c'est un problème, évidemment, dans le cadre d'une lecture littérale de la Bible. Or, et c'est le plus important, l'époque n'est pas au relâchement. Pourquoi? Eh bien parce que entre la parution du livre de Copernic en 1543, rappelez-vous, et la publicité qui lui est donnée par Galilée au début du XVIIe siècle, il y a eu le fameux Concile de Trente, de 1545 à 1564. Concile de Trente au cours duquel les évêques ont décidé de répliquer à Luther et à Calvin, de reprendre en quelque sorte les affaires de la chrétienté en main. C'est ce qu'on appelle donc la contre-réforme. On dit aujourd'hui la réforme catholique. Or, aussi étonnant que ça paraissent, Galilée n'a pas tenu compte de ce climat particulièrement strict de contre-réforme, peut-être parce qu'après tout, c'est celui qu'il a toujours connu lui-même, il est né dedans, donc il se rend pas compte du durcissement de l'Église en quelque sorte. De plus, Galilée a une raison tout à fait personnelle de ne pas trop se méfier, c'est qu'en 1623, le cardinal de Florence, le fameux Barberini, est monté sur le trône de Saint-Pierre, il est devenu le pape Urbain VIII. Autrement dit, pardonnez-moi l'expression, mais Galilée devient un peu le copain du pape, vous voyez. Il lui dédie d'ailleurs un nouvel ouvrage qui traite des comètes en 1618. Il est reçu à Rome par ce pape qui le traite extrêmement bien. Il se voit 6 fois en 6 semaines, vous voyez. Bon. Dès lors, Galilée va se sentir un petit peu au-dessus des lois, disons-le, libéré notamment du serment verbal qu'il avait fait en 1615 au cardinal Bellarmine. Et c'est le cœur léger qu'il rédige donc son fameux chef-d'œuvre, le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, qui est publié, je précise tout de suite, non pas en latin, mais en langue vulgaire, hein, qui est publié à 1000 exemplaires dès la première édition. Aujourd'hui, ça paraît pas beaucoup, mais 1000 exemplaires à l'époque, c'est colossal. On est déjà, si j'ose dire, dans un best-seller. On est en 1632. Or, Urbain VIII, à ce moment-là, s'est rapproché de la France et de Florence contre les Espagnols. Il faut donc qu'il donne des gages aux Espagnols. Et il hésite d'autant moins à lâcher Galilée que ce dernier est très lié à certains milieux romains qui ont eu l'imprudence de prédire la mort imminente de sa sainteté. Mais de quoi je me mêle, n'est-ce pas ? Urbain VIII est très fâché contre ces gens-là. Bref, de malentendu en raison d'état, le savant florentin va perdre la protection du pape et il va se retrouver entre les griffes de Bellarmine et des jésuites qui sont les fers de lance de la contre-réforme, ainsi que des dominicains qui ne sont pas tendres non plus, les tenants de la tradition pour la tradition, n'est-ce pas ? Et d'une façon générale, de tous les défenseurs du système de Ptolémée. Voilà comment on en arrive au procès de Galilée avec ce verdict honteux et cette si pénible séance du 22 juin 1633 où Galilée, à genoux, en chemise devant ses juges, doit abjurer « Moi, Galilée, fils de Vincenzo Galilée de Florence, âgé de 70 ans, comparaissant personnellement en jugement et agenouillé devant vous, éminentissimes et révérendissimes cardinaux, inquisiteurs généraux, agissant pour tout le monde chrétien contre la perversité hérétique, etc., etc. Et on va demander à Galilée d'abjurer de revenir d'un cœur sincère et de bonne foi. J'abjure, je maudis et je déteste les susdites erreurs et hérésies. Il parle là de ses propres écrits. C'est évidemment très choquant. Alors, vous savez qu'en 1992, on a pu lire partout que l'Église avait réhabilité Galilée. En vérité, c'est pas tout à fait vrai. Le pape Jean-Paul II, à l'époque, a tenu à revenir sur le procès de Galilée, à faire une sorte d'examen de conscience de l'Église et à demander pardon, ça c'est vrai. Mais si vous regardez bien le texte, l'Église n'a pas révisé le procès et nulle part elle ne mentionne qu'elle réhabilite Galilée, qu'elle traite néanmoins au passage, on va dire que c'est un lot de consolation, elle le nomme à deux reprises physicien de génie. Bonjour Alain Sirou.
Bonjour Franck Ferrand.
J'ai été très modéré du fait de votre présence, mais j'aurais d'autres arguments contre Galilée dans cette affaire. En fait, c'est assez étonnant de voir que tant de siècles après, la querelle demeure assez active en vérité.
Ah oui, c'était fait d'abord énormément d'ennemis. Oui. C'est un personnage absolument génial, mais c'est un personnage qui a son franc-parler, c'est moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que quand il traitait ses ennemis, par exemple, de pygmées mentaux, bah, ça les marquait.
Pygmées mentales, oui, ben ça doit, on peut peut-être retenir la formule. Avec vous Alain Sirou dans un instant, nous revenons sur les tenants et les aboutissants de cette grande querelle scientifique.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, cet après-midi, vous nous parlez, Franck Ferrand, du grand savant Galilée, avec votre invité Alain Sirou, consultant scientifique d'Europe 1, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace.
Mais je vous vois prudente là-dessus, Céline. Vous n'avez pas dit astronome, vous avez bien dit savant, parce que... Alors, qu'en était-il exactement de cet aspect-là, Alain Sirou ?
Un de ses amis anglais qui était poète, était venu le visiter, il l'avait appelé l'artiste toscan. Je pense que ce qui lui va le mieux, c'est sans doute le mot artiste. Parce que quand on regarde les qualificatifs...
Un artiste de l'esprit
et qui avait, je dirais, de l'or dans les mains. Quand on regarde vraiment Galilée, on se dit il est à la fois ingénieur, architecte, peintre, mathématicien. C'est un vulgarisateur hors pair. Quand il fait des conférences, vous avez des centaines de personnes qui viennent assister à ça.
Il faut pas oublier cette dimension
extraordinaire.
C'est presque un leader d'opinion, comme on dirait aujourd'hui.
Exactement. Il manie la langue avec une dextérité tout à fait extraordinaire et il humilie ses adversaires.
D'où les pygmées mentaux.
Et c'est vrai que quand il devient pour la première fois, je dirais, professeur de mathématiques à l'université de Pise, on peut se dire c'est grand professeur de mathématiques. Pas du tout. D'abord, les mathématiques, c'est vraiment considéré comme moins que rien. Et puis ceux qui sont vraiment les professeurs, ce sont...
À l'époque, ce sont des vues de l'esprit.
Ce sont des philosophes qui sont, je dirais, ceux qui ont et l'argent et le savoir et qui enseignent, évidemment, Aristote et pour qui, je dirais, ce qui est important, c'est, je dirais, la considération philosophique. Alors, c'est vrai que Galilée est un personnage qui est un personnage aujourd'hui qu'on trouverait extrêmement contemporain parce que c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime bien vivre, il aime les femmes, il aime boire, il aime manger, il aime faire la fête avec les copains. Il a toujours des problèmes de sous, c'est terrible.
Voilà, c'est ça. On a l'impression qu'il passe sa vie à courir après l'argent. Quand même.
Oui, il n'est pas né dans une famille très riche, vous l'avez dit. Son père était musicien, entre autres, musicien, je dirais, de cœur. Il a contribué à créer l'opéra avec un certain nombre d'autres gens, c'est quand même important.
Mais on est au tout début de l'opéra. Là.
Mais quand son père disparaît, finalement, lui, l'aîné, devient responsable de ses sœurs, par exemple. Et donc, il faut assurer la
c'est
dot.
C'est un peu le chef de famille.
Ah, c'est le chef de famille, avec une mère exécrable, qui est épouvantable, qui va même le dénoncer, vous imaginez, à l'Inquisition, parce qu'il fait des horoscopes pour vivre, évidemment. Il fallait bien faire un peu de sous. Et puis... C'est vrai que il va toujours être, comme on dit, à la ramasse de l'argent et va essayer de trouver une solution pour s'en sortir. Alors, c'est pas en étant professeur. En étant professeur, il gagne pas grand-chose. Il va inventer des outils et il va justement, pour la première fois, s'inspirer. Alors lui aussi, à son tour, des Grecs. Et il va s'inspirer d'Archimède. Souvenez-vous, voilà. Archimède, c'est moins 250 avant notre ère. Et Archimède, c'est le premier qui a introduit les mathématiques dans la nature.
C'est ça. C'est-à-dire que là, on parlait d'esprit pragmatique. Pour le coup, avec Archimède, on est dans la science appliquée, en quelque
science
sorte.
Science appliquée. Pi, ah oui. Première discussion autour de Pi, c'est Archimède. La vie sans fin, c'est Archimède. La roue dentée, c'est Archimède. Les miroirs ardents qui sont censés avoir protégé Syracuse de l'invasion romaine parce qu'ils concentraient la lumière du soleil.
Ils faisaient brûler les navires. Oui, voilà.
C'est encore Archimède. Et en fait, il est un fils spirituel d'Archimède parce qu'il a la conviction que la nature a un langage mathématique et que on dit, à juste titre d'ailleurs, qu'il a inventé la science parce qu'il est, je dirais, débarrassé de toute idéologie. En dehors de celle-ci, il observe les objets et un carré, c'est un carré, un cube, c'est un cube, un triangle, c'est un triangle, ça ne se discute pas, ça se mesure. Et puis ensuite, on voit ce que l'on fait de la mesure.
Mais alors ça, c'est l'aspect pratique des choses. Je disais tout à l'heure qu'il était florentin et donc platonicien et qu'il était à la recherche d'un système général et en quelque sorte idéal. En même temps, j'ai envie de dire, il est un peu des deux, parce que c'est quelqu'un qui fait de l'expérimentation à haute dose. Il a quelque chose d'Aristote aussi, bien entendu.
Oui, vous avez raison. Il a lu Kepler aussi. Même s'il n'a pas vraiment aimé les digressions de Kepler, il lui a pas répondu d'ailleurs, mais il est intimement convaincu, je dirais, que le système n'est pas tel qu'on le raconte, surtout parce qu'il ne supporte pas ces philosophes arrogants à qui il a montré. Alors, est-ce une légende? N'est-ce pas une légende? La loi de la chute des corps.
Alors
de quoi il retourne? Tout simplement, et c'est quand même quelque chose d'important, c'est que Galilée a découvert, en expérimentant avec des boules, avec des plans inclinés, etc., que deux objets de poids différents, lâchés au même moment d'une même hauteur, touchaient la Terre en même temps. Et on dit qu'il est monté au sommet de la tour de Pise, dont tout le monde sait évidemment qu'elle penche, pour lâcher
ses
boules.
C'est pratique, ça, oui.
Pour lâcher, alors on dit souvent un kilo de plume et un kilo de plomb, c'était évidemment pas cela, mais c'était différentes boules. Et les étudiants étaient au sol, et les professeurs étaient, paraît-il, aussi au sol, et les boules étaient censées tomber en même temps. Sauf qu'ils n'étaient pas d'accord avec Galilée, ils disaient que non. Alors ça l'a mis dans une fureur absolument noire, de refuser l'évidence. En fait, je dirais qu'il était un peu biaisé lui-même. On sait aujourd'hui que cette expérience-là ne pouvait pas marcher complètement, puisque c'est vrai dans le vide, c'est pas vrai dans l'atmosphère, puisque l'atmosphère freine, évidemment. On l'a su vraiment le jour où un homme sur la Lune a pris un marteau de géologue, une plume, les a lâchés en même temps, et on a vu à la télévision descendre les deux objets et toucher le sol lunaire au même moment. Galilée avait eu raison.
La revanche de Galilée.
Quatre siècles plus tard, simplement, je dirais, la conviction de Galilée, c'est que c'est la nature qu'il faut observer, car c'est elle qui dicte ses lois, et c'est pas à l'homme de les interpréter a priori.
On a l'impression que c'est quand même un touche-à-tout. Hein. Il est dans tous les domaines à la fois. Il s'intéresse à la chute des corps, il s'intéresse au mouvement des astres, il s'intéresse à toutes sortes d'instruments de mesure.
Vous pouvez pas imaginer. On dit toujours qu'il a inventé la science. Il a inventé effectivement des outils d'ingénieur, mais je dirais que c'était toujours poussé par deux choses. Le besoin de trouver de l'argent, ça c'est vrai, mais aussi, je dirais, pour Galilée, c'est comment marche le monde. C'est pas pourquoi il marche, c'est comment ça marche. Et quand il voit un objet, il se pose la question de savoir pourquoi il est. Pourquoi est-ce qu'il est comme cela et pas autrement? Et il va passer énormément de temps à les observer, à mesurer, à regarder comment se comportent justement les corps en mouvement uniforme pour essayer d'en tirer des lois. Encore une fois, n'oubliez pas ce filtre qu'il a d'essayer de lire la mathématique de la nature et de comprendre dans le langage de la mathématique comment la nature et les objets, les corps se comportent. Et évidemment, enfin je dis évidemment, ça paraît simple aujourd'hui, 4 siècles plus tard, mais il va en dégager des lois fondamentales qui vont créer ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode scientifique, c'est-à-dire l'observation et la conclusion qui peut être réfutable si on trouve mieux.
Je me rappelle avoir fait il y a quelque temps une émission sur Galilée dans ce même studio et avoir eu en face de moi quelqu'un qui ne l'aimait pas du tout et qui le présentait comme un plagiaire, comme un provocateur et comme un illusionniste. Nous allons voir ce que vous pensez de tout cela, Alain Sirou, dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Gustav Holst sur Europe 1 avec Saturne, un extrait de la Symphonie des Planètes dirigée par Leonard Bernstein. Nous parlons de Galilée cet après-midi dans Au cœur de l'Histoire avec vous Franck Ferrand et votre invité Alain Sirou, consultant scientifique d'Europe 1, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace.
Oui, Ciel et Espace dont j'ai le numéro dans les mains, le magazine de l'astronomie consacré notamment ce mois-ci aux robots chinois dans le golfe des Iris, c'est-à-dire les Chinois envoient un robot sur la Lune, Alain Sirou.
Absolument, avec des caméras qui vont nous montrer la Lune telle qu'on ne l'a pas vue depuis 1972, en couleur, sans doute en relief. Et puis, je dirais, la Lune qui est aussi le meilleur promontoire pour observer la Terre.
Voilà, et d'ailleurs, vous parlez également de la construction d'un télescope, enfin en tout cas de son agrandissement hein, dans une vallée des Alpes, en fait. Hein.
Galilée aurait adoré.
Ah oui, là j'imagine c'est pour lui ça.
C'est un ingénieur.
C'est un hommage. Alors, revenons à Galilée, justement. Il semblerait, parce qu'on m'envoie assez régulièrement des courriers à ce sujet, entre nous soit dit, Galilée fait partie des personnages sur lesquels se crispent un certain nombre de chercheurs. Je pense que c'est pour essayer de défendre l'Église, par ailleurs. À mon avis, il y a une dimension assez... Il y a une espèce de lutte entre science et religion, là, derrière. Mais en tout cas, on me dit régulièrement, voyez à quel point Galilée n'a rien inventé. Tout ce qu'il a dit avait été inventé par d'autres.
Non, c'est profondément injuste, évidemment. Un homme, quel qu'il soit, ne sort pas casqué et botté du néant. Il est dans une époque, il a des inspirations. Je vous ai parlé évidemment d'Archimède, mais je dirais que quand vous avez raconté l'histoire de la lunette, il est très clair que Galilée ne l'a pas inventé. Mais simplement, comme il est subtil et qu'il a besoin d'argent, eh bien... Il perfectionne cette lunette, cette longue vue qui aurait été...
Il la rend 10 fois plus puissante, hein, le disais tout à l'heure.
Il va énormément travailler le verre, l'optique. Parce qu'en fait, ce qui est important dans une lunette, c'est pas tellement le pouvoir de grossissement, c'est surtout sa qualité optique. Vous avez des lentilles concaves et convexes qui doivent être finement poli pour que quand vous observez une étoile, alors là c'est le test suprême, hein, c'est si elle n'est pas ponctuelle et si elle se divise en 2 ou 3, alors c'est que vous avez raté votre optique. Donc Galilée a ce génie, ce talent, alors que Kepler lui va faire la théorie optique, mais Galilée avec ses mains en or, il voulait être peintre, faut pas l'oublier.
C'est oui, il y a un côté artisan hein, chez lui, artiste.
Exactement.
Même,
hein. Et un de ses...
Vous l'avez dit, c'est un artiste, c'est le premier terme que vous avez employé, Alain Sirou.
Et un de ses disciples a d'ailleurs travesti la date de sa naissance pour la rapprocher de la mort de Michel-Ange qui est mort 4 jours après la naissance de Galilée. Donc on voit bien vraiment qu'il a la main, qu'il a l'œil. Mais avec cette lunette, je dirais, son génie, c'est bien évidemment de travailler l'optique, de la monter, et c'est difficile, c'est extrêmement difficile. Il faut s'y être amusé à polir des verres pour savoir que c'est quand même extrêmement subtil. La pointer vers le ciel et là avoir le don de l'observateur. Parce que Galilée, c'est un œil. Galilée, c'est un regard d'aigle. Et ce regard d'aigle, il va l'exercer derrière la lunette, la première lunette astronomique, qui est sans doute la plus mauvaise que jamais existée, puisque ça ne peut être que perfectionné par la suite. Et il va d'abord pointer la Lune. Et il va découvrir, et ça c'est quelque chose de fondamental, que ce qu'il a appris avec les lois de la perspective, avec le talent du peintre, du dessinateur, que les ombres qu'il aperçoit lui permettent au fur et à mesure des soirées de mesurer la hauteur des montagnes sur la Lune.
Incroyable.
D'abord, il découvre que la Lune, elle est pas ronde, elle est pas parfaite. N'oubliez pas qu'à cette époque, dans l'image copernicienne,
ouais, dans l'image, pardon, parfaite, hein, bien sûr,
aristotélicienne,
oui,
de Ptolémée, c'est une sphère parfaite. parfaite. Et puis surtout, la corruption, elle est sur Terre. Le ciel, il est parfait. Or là, de découvrir des cratères, des
une
montagnes...
Une lune toute bossue.
Toute bossue, toute bosselée, dont il mesure les montagnes qui sont parfois plus hautes que les montagnes de la Terre. C'est un choc pour Galilée.
Mais alors pourquoi écrit-il tout cela en langue vulgaire, si ce n'est pour provoquer les gens, disent certains? Oui, c'est un provocateur né, dit-on.
C'est quelqu'un qui aime la joute verbale, voilà, on l'a dit. Mais cette fois-ci, il a des preuves qui sont des preuves irréfutables. Parce que, bien sûr, il observe la lune, mais il observe aussi le soleil. Et il découvre que le soleil a des taches. Et que ces taches évoluent chaque jour. Vous vous rendez compte? Dieu a des taches. C'est vraiment la chose suprême. Et puis, il découvre autour de Jupiter ces quatre petits satellites qu'on appelle aujourd'hui les satellites galiléens. Mais lui, il est très subtil. Il a été professeur de mathématiques du grand-duc Côme II de Médicis, sous lequel il se protège. C'est vraiment les Médicis, ce sont les généreux mécènes de Florence. Et il propose, lorsqu'il publie Le Messager des Étoiles, de nommer ces quatre satellites les satellites médicéens. Donc il est quand même extrêmement subtil.
Est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu courtisan tout de même? D'ailleurs, on a montré ses rapports avec Urbain VIII. Hein. Il est très proche du pape et c'est au moment où il est si proche qu'il se croit autorisé à tout dire et à tout publier parce qu'il se dit cette fois je suis dans un état d'impunité. Sauf que le pape va le lâcher en quelque sorte.
Tout à fait.
Et que Bellarmine est là derrière, qui guettait dans l'ombre.
Il vit à la cour. Il fréquente la cour. D'ailleurs, il a une compagne qui n'est pas déclarée, avec qui il va vivre pendant 18 ans, parce qu'elle est, comment dire, n'est pas de noble extraction. Il va avoir des enfants, mais il ne peut pas se marier, parce que se marier avec une femme d'aussi bas étage, sur le plan social, ça le desservirait. Et en fait, il va accumuler avec ses instruments d'observation les données. N'oubliez pas, parce que c'est vraiment important de le rappeler, que en dehors de voir des satellites tourner autour de Jupiter, et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est une contradiction merveilleuse à la théorie aristotélicienne, il va aussi voir des petites oreilles ou des étoiles collées à Saturne. Il va découvrir des milliers d'étoiles invisibles. Et il dit, mais à quoi servent les étoiles si elles sont invisibles? Puisque, d'après la théorie aristotélicienne, le monde est fait pour que l'homme le regarde. Donc pourquoi cacher les choses? Donc c'est un homme qui va rendre visible l'invisible et qui va vouloir que ça se sache. Et puis comme c'est quelqu'un qui y croit vraiment...
Il sait communiquer, ça on peut le dire. Il a d'ailleurs un regard ironique, tour à tour tendre et acéré. On peut dire, il a un petit regard malin. C'était assez roublard finalement.
Oui. Il va d'ailleurs se rendre compte des différents dangers au fur et à mesure du temps. Il va demander de l'aide à Kepler, qui est mathématicien royal, n'oubliez pas. Il va lui envoyer ses observations, son premier petit livre qui fait qu'une quarantaine de pages, en disant « Je suis attaqué, aidez-moi ». Et Kepler, qui n'avait pas eu de nouvelles, lui renvoie tout de suite une lettre en le soutenant et en lui demandant une lunette. Lui qui est bigleux, il n'aura jamais cette lunette, mais Galilée a le soutien de Kepler. Et puis surtout, chose qui est vraiment, moi je trouve merveilleuse, c'est qu'il il trouve le moyen de faire observer avec sa lunette les jésuites. Les jésuites, dont en particulier le père Clavius, vont regarder la lune et vont mesurer avec Galilée les ombres sur la lune. Donc il a les observateurs, il a les jésuites avec lui qui disent, bah oui, nous on peut rien dire, on n'attaque pas Copernic, voilà, les observations de Galilée sont Galilée. Ses ennemis ne voulaient pas voir dans la lunette, ils disaient, mais c'est la lunette qui transforme les choses. Et ça c'est une chose merveilleuse, c'est un débat qui interviendra plus tard dans la physique quantique. Est-ce que c'est l'observateur qui modifie le phénomène ou est-ce que c'est le phénomène qui est vu par le prisme d'un instrument nouveau qui s'appelle la lunette? Donc il est sûr de son affaire tout en étant quand même prudent comme un crotal.
Oui, il est prudent et du reste, disons-le, alors évidemment il y a cette scène épouvantable dont je parlais qui est devenue maintenant c'est devenu une sorte de mythe pour tous les scientifiques, hein, oui. Cette scène de l'abjuration de Galilée qui est obligé de s'humilier en public public en disant tout ce que j'ai dit est faux, j'ai menti, etc. Mais on sait à quel point ce genre de cérémonie était parfaitement formelle, oui. En vérité. Il faut dire qu'il a échappé à la torture, hein, quand même, et qu'il n'a pas été condamné à mort. Il s'est retiré, j'allais dire, gentiment sur ses terres.
Oui, puis il vivait, je dirais, avec l'aide des Médicis, très très bonnes conditions.
On lui a pas retiré ses pensions.
Bellarmine l'avait mis, il faut rappeler que Bellarmine, c'était l'inquisiteur qui a mis sur le bûcher Giordano Bruno,
bien
après
sûr,
des années
horrible
où Bruno
histoire.
Refusait. Hein.
Oui.
Bruno, il a eu plein de portes de sortie possibles, il a refusé. Donc Bellarmine était cet inquisiteur. Et Bellarmine avait convoqué Galilée en disant, attention, comme vous le rappeliez, et Galilée avait été prudent, il lui avait demandé une lettre pour rappeler cette injonction, tout en sachant que la commission théologique qui avait été commandée par le Saint-Siège sur cette affaire avait dit, et ça c'est extraordinaire, l'héliocentrisme est décrété absurde en philosophie et hérétique en théologie. Les choses étaient dites, elles étaient claires. Donc aller plus loin,
hérétique c'était... Hérétique en théologie, on a presque envie de dire ça vous regarde, mais absurde en philosophie, de quoi je me mêle?
Voilà, de quoi je me mêle. Et comme, alors ça c'est aussi quelque chose que Galilée aimait rappeler, c'est pas lui qui l'a inventé, il semblerait que ce soit quelqu'un du Vatican, mais il disait en parlant de la grande œuvre du ciel, il disait Dieu ne dit pas comment va le ciel, il dit comment aller au ciel. Donc je suis sur la bonne voie quand je montre le ciel.
Finalement, ils n'étaient pas ignorants, tous ces juges, mais ils étaient d'une très grande, d'une incroyable prétention. Ils avaient la prétention de continuer à dire la vérité. Et c'est bien une lutte de pouvoir à laquelle on assiste entre le nouveau pouvoir de l'observation et de la science et le pouvoir tellement ancien de ceux qui connaissent le dogme.
Oui, c'est complexe, encore une fois, de tirer des conclusions sur le procès de Galilée, parce que il y a, et vous l'avez rappelé, le contexte global de la contre-réforme, il y a une haine viscérale des institutions en place et un certain nombre de personnages dans les universités pour que Galilée soit évacué. Je dirais que finalement, il est condamné par son époque, mais il est reconnu par l'histoire. Et c'est ça qui est important. Et quand on regarde finalement les deux inventions majeures, si on devait en retenir que deux, de Galilée, et qui vont fonder la science, c'est le principe d'inertie et le principe de relativité, qui dit que finalement on est incapable de décider quand la Terre est en mouvement,
si une expérience est juste ou pas. Et pourtant elle tourne.
Et pourtant elle tourne. Eh bien ça nous donnera, je dirais, 4 siècles plus tard, la relativité générale et la physique quantique. C'est quand même grand.
C'est immense. On peut dire que là, on a posé des jalons pour l'avenir. Évidemment, on parlera bientôt de Newton. Ça tombe bien. il va mourir aveugle, ça c'est assez terrible, en 1642,
oui,
pour cet homme qui a passé sa vie à observer, d'un seul coup il ne voit plus.
Oui, l'homme au regard de lynx meurt aveugle, c'est un signe, mais c'est vrai que ce qu'il va emmener dans la tombe et dans le ciel, c'est l'invisible rendu visible sur la Terre.
Merci beaucoup Alain Siroux, qui donc est directeur de la rédaction, notre consultant scientifique, et directeur de la rédaction de Ciel et Espace, le magazine de l'astronomie, avec en couverture pour le mois de novembre, la lune qui voit rouge.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et plusieurs questions aujourd'hui, hein, Franck Ferrand, pour vous. Questions qu'on nous a envoyées via la page Facebook de l'émission, dont la première, celle de Paul. D'où vient l'expression pendaison de crémaillère lorsqu'on emménage?
Alors oui, cette crémaillère, elle est très importante, figurez-vous. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à notre ami Jean-Louis Beaucarnot et à toutes ses subtiles recherches sur la vie quotidienne. Autrefois, il a écrit notamment un livre qui s'appelle « Comment vivaient nos ancêtres ?» Et dans ce livre, on se rend compte de l'importance de cette crémaillère qui était au cœur des foyers, c'est le cas de le dire, hein, dans la cheminée. Alors qu'est-ce que c'est cette crémaillère? C'est une sorte d'anse, si vous voulez, hein, comment pourrait-on dire, c'est une sorte de tige de métal avec des crans à différents niveaux, sur laquelle on installait l'anse, on crochetait l'anse de la marmite, et dans cette marmite, qu'on appelait le pot, tout simplement, selon les régions, on faisait une sorte de ragoût qui cuisait en permanence. En tout cas, pendant tout le moment où on faisait du feu dans la cheminée, vous aviez cette espèce de ragoût dans lequel on rajoutait des choses, on changeait la sauce peu à peu, on modifiait la... C'était une sorte de... ce qu'il y avait dedans, selon la richesse de la famille, évidemment, c'était soit du brouet clair, soit parfois des ragoûts plus raffinés. En tout cas, selon l'importance du feu, il fallait éloigner la marmite du feu ou au contraire l'en rapprocher, d'où l'utilité de cette crémaillère qui était l'objet qu'on mettait symboliquement à la toute fin lorsqu'une maison était prête, était construite. Quand on s'installait quelque part, on mettait le mobilier, etc. Et puis, on installait, on pendait la crémaillère dans le foyer. Ça voulait dire que la maison était prête à être habitée. Et évidemment, on en profitait pour inviter tous ceux qui avaient contribué à la construction, etc. Donc, on faisait la pendaison de crémaillère. Alors, dans cette marmite, dans ce pot, il y avait une grande cuillère qu'on appelait la cuillère à pot. Seulement, moi, je vois qu'il est 14h58 et 30 secondes. Et si vous voulez bien la cuillère à pot, je vous en parlerai une autre fois. Bonjour Elena Mornin.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Avec les experts européens aujourd'hui, nous allons parler d'un autre feu, le feu qui s'éteint. Je veux parler du désir féminin. Comment contrôler les fluctuations de ce désir, de la libido? Ça vous intéresse, mesdames, et vous aussi, messieurs, sans doute. 3921 ou europe1.fr.
Tout un programme. Merci beaucoup. À demain. Nous nous voyons demain, Céline.
Oui, à demain, Franck.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.